Quelle grâce de pouvoir aimer le Seigneur, amen. Quelle grâce de pouvoir le connaître. Quelle grâce de pouvoir l'adorer. Quelle grâce de pouvoir lui dire tout notre amour. Vous savez, le diable n'aime pas lorsqu'on décide, quelles que soient les circonstances, de faire appel au Seigneur. Et c'est question de cela ce soir. Et je vous invite tout simplement à la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17 à partir du verset 11. Et nous allons lire Luc 17, 11 à 19. Vous connaissez cette histoire des 10 lépreux. Et nous allons voir quelques encouragements ce soir dans la parole de Dieu par rapport à ce passage. Je lis au verset 11 de Luc 17. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés, c'est-à-dire guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba même sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Notez, c'était un Samaritain. Verset 17, Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été aussi purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, c'est-à-dire ce Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu? » Verset 19, puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Connaissez ce passage tellement fort, et je vais encore prier pour demander vraiment au Seigneur la révélation de sa parole, parce qu'on a besoin de la révélation de sa parole. C'est vrai que c'est un récit qu'on connaît depuis bien longtemps, mais je voudrais vraiment que ce soir nous voyons les clés que Dieu voudrait nous dire encore dans ce passage. Et je pense que la parole de Dieu est tellement vivante que plus nous la lisons, plus les clés sont là pour révéler la gloire du Seigneur, pour révéler l'amour du Seigneur, pour révéler tout ce que Dieu a en provision et en réserve pour nous. Seigneur, je te prie maintenant que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole est vraie, elle est véritable et toi-même, tu es la parole vivante. Et dans ce récit, Seigneur, je te prie de faire ressortir ce dont nous avons besoin d'entendre encore. Durant notre temps, nos circonstances, notre vie, Seigneur, c'est une histoire qui date tellement de longtemps, mais elle est tellement encore actuelle. Je te prie, Seigneur, donne la grâce de révéler dans nos cœurs, par ton esprit, toute la richesse qu'il y a dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est en voyage, ça lui arrive aussi. Et voilà qu'il passe entre la Samarie et la Galilée. Vous savez que la Samarie était une terre qui n'était absolument pas praticable. La Samarie, c'était la demeure des impurs. On revient bien des siècles avant, où il y a eu cette déportation, si vous voulez, dans la Samarie. Et la Samarie était touchée par, malheureusement, le péché qu'il y a eu en Israël. Israël n'a pas respecté les lois du Seigneur. Et du temps de la Syrie, il y a eu, si vous voulez, le roi qui a permis que les Samaritains restent dans cette contrée d'Israël, mais qui était peuplée par des étrangers. Et ça faisait des siècles qu'il y a eu un mélange, on va dire, de nations dans cette terre-là. Et pour un juif orthodoxe, pour un juif religieux, il était interdit de passer par la Samarie parce que cette Samarie était une terre impure. Et déjà là, il y a une clé. Parce que Jésus, dans son voyage, passe entre la Samarie et la Galilée, entre cette terre impure et la Galilée. La terre, bien entendu, où Jésus a marché, où Jésus a fait tant de miracles, mais c'est extraordinaire de voir qu'il s'est souvenu de la Samarie, cette terre qui était maudite, cette terre qui était impure, cette terre qui n'était pas praticable pour, en tout cas, les religieux. Le Seigneur nous interpelle ce soir dans le fait que je connaisse le Seigneur, dans le fait que je l'aime, dans le fait que je l'ai rencontré, dans le fait que je connaisse les choses de Dieu. Où est-ce que j'en suis dans ma marche avec le Seigneur, si le Seigneur me demande d'aller beaucoup plus loin que ce que je connais, dans la grâce que j'ai de le rencontrer, de l'aimer et d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que je veux suivre aussi Jésus là où il veut m'envoyer, dans des endroits peut-être où dans ma tête, je ne suis pas prêt à y aller parce que ça peut être terre impure. Attention, je ne parle pas de choses où on pratique des choses impures. On est bien d'accord sur ce point-là. Mais est-ce que le Seigneur, parfois, ne veut pas m'envoyer et me donner d'entrer en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément contactables? Et c'est là où je suis interpellé dans ma foi. C'est là où, dans mon confort de ma vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut vraiment me défier pour aller beaucoup plus loin. Et Jésus veut m'amener plus loin ce soir encore, par son exemple. Et voilà que Jésus... Je rappelle qu'il est en voyage, donc Jésus se déplace, Jésus est à la rencontre, Jésus veut que nous nous déplacions, Jésus veut que nous soyons aussi à la rencontre de l'autre. Mais de quel autre? Parce que peut-être que je peux faire de la différence entre tel ou tel prochain. Il y a peut-être un prochain qui est plus facile d'aimer qu'un prochain qui n'est pas forcément selon mes standards, selon ce que je pense de lui. Alors que le Seigneur demande deux commandements, vous les connaissez. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux commandements. Avec ces deux commandements, tu accomplis la loi et les prophètes. Finalement, l'évangile, c'est simple. Mais dans la pratique, j'en suis où? Que le Seigneur me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Quel est mon prochain? N'importe qui. Celui que tu croises. Et le Seigneur veut que tu croises peut-être encore d'autres personnes dans ta vie, parce que le Seigneur est en mouvement. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus ne manque pas de passer entre la Samarie et la Galilée. Pourtant, il se rend à Jérusalem, une terre de prédilection, une terre qui est bénie, une terre qui a vu le Messie, qui verra encore le Messie arriver. Oui, mais il y a ces Samaries. Il y a ces régions qui doivent être encore visitées par la puissance de l'Éternel. Et j'irai même par l'amour de l'Éternel. Je ne mets pas la puissance, vous comprenez, et l'amour de l'Éternel comme cela en contraste ou en opposition. La puissance de l'Éternel appelle l'amour de Dieu. Et grâce à la puissance de l'Éternel et l'amour de Dieu, les choses se passent. Et comme il entre, Jésus, dans ce village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tiennent à distance. Voyez, on est entre cette terre maudite de la Samarie et la Galilée, et en plus, il y a 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, c'est vraiment 10 lépreux qui souffrent d'un rejet. Vous pouvez trouver le statut de lépreux dans Lévitique 13, où il y a tout un processus de purification, il y a aussi tout un éloignement à cause de la lèpre. On est entre la Samarie et la Galilée, on est dans une terre qui est maudite, et en plus il y a 10 lépreux qui se trouvent là, qui n'ont plus de demeure, qui sont rejetés, et qui sont rejetés de chez rejetés. Pire que cela, tu ne peux pas trouver. Et ce soir, je ne pense pas qu'il y ait parmi nous des personnes qui aient un statut autant grave que ces 10 lépreux. Parce que Jésus est là, parce que Jésus t'aime, parce que Jésus ne te rejette pas. N'oubliez pas que Jésus commençait à être connu, commençait à révéler l'amour du cœur du Père là. Et Jésus était dans l'exercice de son ministère. Il y a ces 10 lépreux qui sont pas loin de cette terre maudite. Et Jésus entre dans ce village. On ne sait pas vraiment ce que c'est que ce village, mais Jésus entre dans ce village avant de se rendre à Jérusalem. Jésus veut passer par ce village. Jésus peut-être veut faire ce détour. Jésus, dans son amour, veut faire ce détour par ta vie ce soir. Amen. Peut-être que tu habites une contrée ou peut-être que tu te trouves dans des circonstances où il te semble que Jésus ne va pas passer, mais ce soir, Jésus veut passer chez toi. Peut-être que tu te sens comme l'un de ces 10 lépreux, rejeté, abandonné, non aimé, parce que personne ne t'aime. Et regarde ce qui se passe dans la grâce de cet appel de ces 10 lépreux qui se tiennent à distance, parce que bien sûr, Ils savaient qu'ils devaient se tenir de par leur statut de lèpre qui les tenait éloignés de tous parce qu'ils étaient impurs. Vous vous souvenez que même quelqu'un, lorsqu'il voyait ces lépreux, devait crier au devant « Impur, impur, ne vous approchez pas, ce sont des lépreux, c'est impur, mais invivable. » Il y a 10 fois l'occasion, excusez-moi de le dire, mais de se donner le tour là, vous êtes d'accord ? D'être rejeté à ce point. Mais que me sert-il de vivre, de croire encore à une espérance ? Quand il y a encore des personnes qui, devant moi, crient et s'écrient « Impur, ne vous approchez pas de ces lépreux !» En plus, pas loin de cette terre maudite de la Samarie. Je pense qu'on touche le fond, là. Et Jésus le sait. Et voyez, ce qui me touche aussi dans cette histoire, c'est que ces lépreux, bien sûr, se tiennent à distance, ils le savent, qu'ils ne peuvent pas vraiment approcher Jésus. Ils le savent par respect de celui qui est pur. Peut-être qu'ils ont vu des religieux qui demandaient peut-être de crier encore trois fois plus fort, impur, parce que je suis un religieux, parce que moi je suis pur. Impur, on crie impur, parce que moi j'ai la grâce de vivre selon la loi de Dieu. Peut-être qu'il y a eu ces expériences. Et Jésus, lui qui est le pur des purs, l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde, celui qui est saint, qui est sans défaut, il passe par ce village. Et peut-être qu'il se disait, mais il y a Jésus qui passe. Bien sûr, ils le savent que c'est Jésus, c'est celui qui est pur. Donc on se tient quand même à distance, mais on attend quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à crier, c'est ça qui est extraordinaire. Tu as peut-être encore la voix ce soir pour crier au Seigneur. Amen. Ils élevèrent la voix, ils ont trouvé quelque chose, ils ont eu un bon plan parce que leur voix pouvait encore crier. Peut-être que ce soir, la voix ou le cri de ton cœur va crier au Seigneur. Amen. Tu as encore la voix pour crier au Seigneur. Même si on t'a rejeté, même si on se sépare de toi, tu as encore la voix de ton cœur qui peut crier à Jésus. Amen. Parce que Jésus veut passer par ce village, parce que Jésus veut passer par cette contrée, parce que Jésus est en train ce soir de passer dans tes circonstances. Amen. Est-ce que tu vas crier au Seigneur? Ça, c'est la clé. Ils étaient complètement désespérés. Peut-être que tu es à ce point désespéré pour crier au Seigneur, mais l'es-tu suffisamment pour crier à Jésus? Parce que si ces lépreux n'avaient pas crié, tout serait resté comme avant, séparé de tous, près de la Samarie et terre maudite, avec une vie où on continue à crier impur devant ma vie. Pourtant, je suis un homme comme vous. C'est clair qu'il y a mon apparence qui est lépreuse, mais mon cœur souffre. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne savez pas que je suis touché aussi, que j'ai aussi la grâce de pouvoir m'adresser à Jésus. Vous vous rendez compte la condition là? Je pense que ce soir, nous sommes tous rejoints dans cette grâce du Seigneur. S'ils n'avaient pas crié, rien ne se serait passé. Alors ils se regardent certainement, je pense que beaucoup de choses se passaient. Ils disent, mais il y a Jésus qui est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne peut pas faire autrement que de crier, que d'hurler. Et c'est ce qu'ils font. Ils crient leur désespoir. C'est un cri de désespoir. Ils disent, mais Jésus, maître. Ils le reconnaissent comme maître. Ils reconnaissent que Jésus a l'autorité. Ils reconnaissent que Jésus peut intervenir. Est-ce que dans ta vie, tu reconnais que Jésus peut encore intervenir dans ta vie, dans tes circonstances? Jésus, maître. Jésus, maître. Aie pitié de nous, au moins manifeste un regard, Seigneur. Au moins arrête-toi sur ta route, Seigneur. Aie pitié de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Un regard? Un arrêt? Je ne sais pas. Une attention, Seigneur. Tu es là, fais ce que tu veux, maître, Jésus. Et en plus, Yeshua, Dieu qui sauve. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte, bien sûr, Yeshua, c'est Dieu qui sauve. Donc dans leur langage, ils lui adressent Jésus, Yeshua, Dieu qui sauve, maître, parce que tu es Dieu qui sauve, tu es le maître, aie pitié de nous. Seigneur, tu es le maître, tu as l'autorité, tu es Dieu qui sauve, aie pitié de nous. Fais ce que tu veux, Seigneur. On va t'obéir. Dans notre désespoir, dans notre rejet, on va t'obéir. Dans notre vie que tu connais parce que nous sommes lépreux, eh bien, dis une parole. Mais simplement, aie pitié de nous. Tu peux le dire, Seigneur, ce soir, aie pitié de moi, Yeshua, Dieu qui sauve Maître, aie pitié de moi, Seigneur. Et quelque chose s'enclenche spirituellement. Quelque chose de tellement fort arrive. Et voyez, Jésus les voit, et ça paraît cru, là, hein, la recette, franchement, il leur dit quelque chose. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Vous savez, quand Jésus nous donne une parole, quand lui a dit, Dieu sauveur, Yeshua, Jésus, Maître, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Jésus peut te donner un ordre, un commandement à faire. Et c'est la clé de ta guérison. Est-ce que tu vas obéir? Ou est-ce que tu vas commencer à argumenter? Parce que c'est le processus de la loi de Lévitique 13 qui se met en marche là. Ils devaient se présenter aux prêtres pour que leur lèpre soit constatée et qu'il y ait un diagnostic. Alors j'aime mieux te dire que là, tu peux commencer, si tu restes dans la chair et que tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, j'aime mieux te dire que tu entres en conversation sérieuse avec le Seigneur. Ok? Parce que tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes comme commandement? Je ne comprends pas là. Ça fait longtemps que j'aurais pu aller vers les prêtres, me présenter. Ça fait longtemps que j'aurais pu suivre le protocole. N'as-tu pas une autre parole? N'es-tu pas Dieu qui sauve et que sur ta parole, eh bien, je peux être délivré? Tu me demandes, Seigneur, d'aller vers les prêtres. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et voyez, c'est dangereux de commencer à entrer dans ces dialogues lorsque le Seigneur te demande un commandement. Parce que le Seigneur a toujours, et je le dis souvent, a toujours un coup d'avance dans ta vie. Et il sait pourquoi est-ce qu'il te demande quelque chose. Est-ce que ton cœur est prêt à lui obéir sans discuter, sans argumentation? Amen. Si tu peux dire Amen ce soir, eh bien la clé est dans la guérison pour ta vie. Quelles que soient tes circonstances, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête parce que je ne connais pas tes circonstances. Mais le Seigneur est en train de te montrer quelque chose ce soir. Qui est une clé pour la délivrance. Si tu t'adresses à Yeshua, ce Dieu sauveur, ce maître, dans lequel tu reconnais qu'il a une pleine autorité dans ta vie. Alors regardez là, et la parole reste silencieuse, je crois qu'elle a été silencieuse, parce qu'en ayant l'audace de crier à Jésus, et que Jésus s'arrête, et que Jésus les regarde, et que Jésus leur donne ce commandement pour eux, ça suffisait. Allez vous montrer au prêtre. Terminé. 1, 2, 3, 4, 5 mots. Allez vous montrer au prêtre. Est-ce qu'ils ont le désir de se mettre en marche? Ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas les ordres du Seigneur. Ne discute pas les ordres du Seigneur. Agis. Mets-toi en marche. Tu peux dire, heureusement que le ridicule ne tue pas. Des fois, quand on marche avec le Seigneur, c'est un peu comme ça. C'est pour nous rendre humbles. Des fois, tu te dis, mais pourquoi y aller? Mais parce que tu me l'as dit, Seigneur, j'y vais, je t'obéis. Et j'aime mieux dire qu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place dans ta vie. Et là, ils ne discutent pas. Même si le chemin est connu, même si le processus des prêtres est connu, ils y vont. Et dès qu'ils se mettent en marche, et pendant qu'ils y allaient, je ne sais pas s'il y allait gaiement. On y va. Jésus l'a dit, j'obéis, j'y vais. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva. Et ce soir, il y a un arriva pour toi. Quelque chose va arriver. Quelque chose arrivera. C'est parce qu'ils se sont mis en marche qu'il arriva. C'est parce qu'ils y allaient qu'il arriva. C'est suite à leur action qu'il y arriva. Il y a eu le cri... Seigneur, aie pitié de nous, Yeshua. Il leur donne l'ordre, ils se mettent en marche, et parce qu'ils se sont mis en marche, il arriva quoi? Il arriva qu'ils furent purifiés. Amen. Leur délivrance est arrivée. Purification instantanée. C'est fait. Il n'y a pas de discussion. Ils ont obéi, ils ont été purifiés, et ça a été bien fait, tellement bien fait pour eux. Quelle grâce! Je voudrais vous attirer sur l'attention maintenant de la suite du récit, c'est important. Il y a aussi, je pense, un avant et après pour ces lépreux, Mais il y a surtout un après pour l'un d'entre eux, vous le comprendrez. Alors ils marchent, ils sont purifiés instantanément. Vous voyez, la lèpre est quelque chose de tellement, tellement douloureux. Vous avez certainement vu des lépreux, je n'ai peut-être pas vu comme cela en vrai, moi je n'ai pas forcément vu en vrai. Il y a des images, il y a plein de reportages. C'est une maladie épouvantable qui te ronge, j'ai la peau qui s'enlève. Il me semble que le terme de lépreux, c'est comme un flocon de neige, quelque chose de tout se désagrège en toi. Tu pourris de l'extérieur. Tu n'es plus désirable. Et les voyants, Jésus voit leur détresse. Et ils sont instantanément purifiés. La vie change dès ce moment. Pour les 10, la vie change. Pour les 10, il n'y aura plus impur. Ça marque la réintégration de la société. Ça marque une purification, une guérison. Le Seigneur veut aller plus loin là. Et c'est là que lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est lorsque nous sommes exaucés dans nos prières, quand le miracle arrive, il y a toujours quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus se passe dans le cœur. Parce que vous savez que c'est une question de cœur à cœur avec le Seigneur. L'un, deux, se voyant guéri. On se demande ce qui se passe dans les 9 autres, franchement. Hein. Ils se voient guéris, mais les autres 9 n'ont pas vu qu'ils étaient guéris. Se voyant guéris. Il constate le miracle et il revient en lui-même. Bien-aimé, on peut avoir tellement des cœurs durs, on peut avoir un exaucement de prière de la part du Seigneur, mais cet exaucement de prière me ramène à moi-même, dans ma circonstance, parce qu'on est vite oublieux. Et cela fait part, malheureusement, de l'égoïsme qui nous habite. Enfin, ma guérison, c'est super, c'est ma guérison à moi seul. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle produit en toi, cette guérison? Est-ce que cette guérison va produire un changement d'attitude par rapport à ce Yeshua que tu as invoqué, ce Dieu sauveur? Parce que ce Dieu sauveur, on sait qu'il a porté nos meurtrissures, on sait qu'il a porté nos péchés, on sait qu'il a porté notre guérison, on sait que ce salut est complet, mais quand Jésus me touche comme ça, est-ce que je me rends compte que Jésus veut toucher encore beaucoup plus en moi? Et que Jésus veut toujours m'attirer beaucoup plus loin avec lui? Et c'est ce qui s'est passé seulement sur le 10% de ces lépreux. L'un d'eux se voyant guéri, il revient sur ses pas et il glorifie le Seigneur à haute voix. C'est étonnant, les autres ne l'ont pas suivi. Ah, tu vas aller remercier Jésus? C'est bien, vas-y, moi je vais retrouver ma vie, je vais retrouver mes activités, c'est super, je suis délivré, j'y vais. Et là, il y a vraiment une clé, bien-aimé. Il y a la clé qui se passe dans le cœur. Il y a ce respect qu'il y a pour le Seigneur. Il se voit guéri, il glorifie le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à glorifier le Seigneur une fois que l'Éternel a répondu à notre prière? De rendre gloire, c'est grâce à toi, Seigneur, que je suis guéri. C'est grâce à toi que je suis purifié. Des fois, on a tendance à être oublieux. Je pense que cette histoire nous montre l'importance de rendre toujours gloire au Seigneur. Et ce lépreux vraiment commence par rendre gloire à Dieu. Et le fait de commencer à rendre gloire à Dieu en revenant sur ses pas à haute voix, eh bien, il rencontre vraiment le Seigneur. Amen. Il le rencontre vraiment. Et regardez ce qui se passe. Il tombe en adoration. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Et regardez, c'était qui? Je ne sais pas si les autres étaient samaritains, mais lui était un impur de chez impur, un samaritain, celui qui habitait dans cette terre éloignée, dans cette terre noire, dans cette terre brûlée, dans cette terre où il y avait le rejet, dans cette terre où il n'était pas bon d'être samaritain parmi les religieux. Et en plus de samaritain, il était lépreux, c'était l'horreur. Peut-être que nous devons parfois toucher le fond à ce point pour appeler au Seigneur, pour revenir en nous-mêmes, pour tomber à genoux devant Jésus en adoration et pour reconnaître qu'il n'y a toi seul, Seigneur, qui me rejoins là où j'en suis. C'était un samaritain et heureusement que la parole de Dieu, mais c'était un samaritain. Impur de chez impur. Et regardez le miracle de cet homme. Il y a souvent des histoires de Samaritains dans la parole de Dieu. Vous connaissez aussi ce Samaritain qui a été au secours de celui qui avait été agressé. Vous relirez l'histoire du bon Samaritain. Et je vous dis, pour un religieux, un bon Samaritain, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Alors Jésus prend la parole et lui dit, mais il est touché dans son cœur. Sans mépriser l'adoration de ce lépreux qui revient à ses pieds, il est quand même touché, il est troublé dans son cœur. Et il lui pose quand même cette question. Moi, ça me touche de voir, on peut dire, l'humanité de Jésus. Jésus qui est dans mes baskets, parce qu'il se pose aussi des questions, lui. Il dit, mais les 10 n'ont-ils pas été aussi purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Et ça, c'est un drame pour le Seigneur. Et j'espère que dans l'Assemblée ce soir, il n'y a pas 9 Samaritains qui ont été touchés par la grâce de Dieu, qui ont été délivrés par le Seigneur, et dont le Seigneur dit, mais où sont les 9 autres? En posant cette question, c'est comme si Jésus, je suis un peu radical ce soir, c'est comme si Jésus disait, mais je ne les connais pas. J'aimerais les connaître. J'aimerais m'entretenir avec eux comme je le fais avec toi. J'aimerais qu'ils reconnaissent encore davantage que je peux devenir véritablement ce Dieu sauveur, ce maître, parce qu'ils reviennent à moi. Mais cette fois, pas pour leurs besoins, mais comme adorateurs. Vous savez, on peut rencontrer le Seigneur pour nos besoins. Et ça, c'est les 9 lépreux qui ont crié à Dieu pour leurs besoins, je dirais entre guillemets, égoïstes. On ne va pas les juger, attention. C'est épouvantable ce qu'ils vivaient. Je ne sais pas si on peut se remettre à leur place. Mais Dieu veut que nous allions beaucoup plus loin, pas seulement pour nos besoins, mais Dieu veut que nous le rencontrions parce que nous l'adorons, parce qu'il agit dans notre vie, parce qu'il intervient dans notre vie, parce qu'il est là dans mes circonstances, parce qu'il fait le détour par ma Samarie, parce qu'il fait le détour par mon village, parce qu'il fait le détour par ma contrée. Et Dieu, dans cette rencontre, désire que je devienne véritablement un adorateur en esprit et en vérité. Et regardez le résultat. Jésus se pose la question, il est troublé dans son cœur. C'est comme s'il ne connaissait pas les 9 autres Samaritains. Et il est troublé dans son cœur au point de dire au verset 18, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Cet étranger, ce Samaritain, cet étranger qui n'est pas de notre « entre guillemets race ». Ça peut paraître cruel que Jésus dise « cet étranger ». Et non, mon frère, mon serviteur. Et la parole de Dieu, si elle met ces étrangers, c'est pour emphaser sur le fait justement que ce Samaritain était vraiment étranger au reste d'Israël. Mais cet étranger, qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur? Peut-être que tu peux être un étranger aux yeux des hommes. Peut-être que tu peux être une étrangère aux yeux de ta famille. Rejeté, mais regarde ce que Jésus dit, et ce verset 19 scelle tout. Puis il dit, et lorsque Jésus déclare quelque chose, ces paroles vivantes, ces paroles créatrices, ces paroles de salut, amen. Et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Lève-toi, va, et ta guérison est complète. Pourquoi? Parce que ta foi t'a sauvé. Non seulement ta foi t'a rendu pur parce que tu as obéi à mes commandements et tu t'es rendu vers les prêtres, mais en plus, ta foi t'a sauvé. L'important, c'est ton âme. L'important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas que tu sois purifié. C'est vrai que c'est important que tu reçoives ta guérison. Mais l'important, c'est que tu reviennes à moi, que tu m'adores, que tu adores ce Dieu. Et alors, ta foi t'a sauvé pleinement. Et on revient dans cet Ésaïe 53. Il a porté nos meurtrissures. Il nous a guéris non seulement de notre péché, mais aussi de nos maladies. Et lorsqu'on parle de Yeshua, Dieu sauveur, dans le grec c'est sozo, c'est un salut total, complet. Tes maladies, la maladie du péché, tout ce qui se passe dans ta vie, ta foi t'a sauvé. Et lorsque Dieu, lorsque Jésus, Yeshua, prononce ça sur ta vie, tu l'as dans ton cœur et tu t'accroches à ta foi, t'a sauvé.